Mon Dieu, ce n'est pas possible. Vous voulez dire les Philippines? Réaction de Frank Knox, secrétaire d'État à la Marine des États-Unis, à l'annonce du bombardement de Pearl Harbor.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En ce dimanche 7 décembre 1941, il fait beau temps sur la base de Pearl Harbor, à Hawaï. D'ailleurs, l'amiral Kimmel, qui commande la base, et donc la flotte du Pacifique, a prévu en cette matinée d'aller faire une partie de golf. Or, à quelque 320 km de là, une grande escadre japonaise, avec en particulier 6 porte-avions, s'apprête à attaquer Pearl Harbor par surprise, et surprise totale. Une première vague d'appareils décolle, 183, suivie un peu plus tard par une deuxième vague composée de 163 avions. À 7h53, ayant réussi à passer inaperçu, à n'être même pas remarqué par les radars qui les ont confondus avec des avions américains. La flotte aérienne japonaise entame son bombardement avec le fameux code Tora, 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 tigre, 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 prononcé par le capitaine Fushida pour avertir l'amiral Nagumo que l'objectif était désormais atteint. Le bombardement va durer 2 heures. 5 cuirassés vont être coulés, 3 vont être endommagés, 188 avions américains seront détruits sur le sol, 2 403 personnes trouveront la mort. À l'inverse, seulement 29 avions japonais sont abattus. Il est indéniable que cette attaque surprise de Pearl Harbor est un coup de tonnerre. Néanmoins, il est évident que ce n'est pas un orage isolé dans un ciel serein. Cela fait déjà plusieurs années que dans le Pacifique, la tension est montée. En effet, en juillet 1937, la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek avait été attaquée par les Japonais, suite déjà en 1931 à l'occupation de la Mandchourie. Le Japon s'était donc lancé dans la campagne de Chine, finalement plus compliquée, plus difficile à mener que prévu, mais qui avait permis aux Japonais d'occuper une bonne partie de ce qu'on appelle la Chine utile, dont les grandes villes telles Pékin, Shanghai, Nankin. Cette attaque, qui d'ailleurs devient vite tout de même un bourbier pour les armées japonaises, avait provoqué la colère de Washington. En juillet 1939, le gouvernement américain avait décidé la dénonciation du traité commercial de 1911. En décembre de la même année, Washington avait décidé l'embargo sur toute exportation d'avions en direction du Japon. Mais l'année 1940, alors, allait encore aggraver la situation. En effet, à la suite de la défaite de la France en mai-juin 1940, les Japonais obtenaient de Vichy l'occupation du Tonkin. De plus, le 27 septembre 1940, Italie, Allemagne et Japon signaient le pacte tripartite. À vrai dire, ce pacte tripartite était ambigu parce que, dans le même temps, les trois alliés n'avaient pas véritablement une politique commune. Il faut voir en particulier que, dès le mois d'avril 1941, le gouvernement japonais signait un pacte de neutralité avec Moscou, alors qu'au même moment, Hitler préparer la campagne contre l'Union soviétique. Mais cette politique d'alliance avait accru la défiance américaine. Désormais, il y a un nouvel embargo sur la ferraille. Et le 11 mars 1941, par la loi Prebail, le Congrès américain autorisait les États-Unis à vendre à crédit de l'armement, en particulier à la Grande-Bretagne et à la Chine. La tension monte encore d'un cran quand, en juillet 1941, afin éventuellement de préparer une grande campagne dans le sud-est asiatique, les troupes impériales japonaises occupent l'Indochine française, qui théoriquement reste dans les mains de Vichy, mais enfin avec la présence de troupes nippones. Là, l'embargo touche le pétrole. Alors évidemment, cette série d'embargos pouvait éventuellement étrangler progressivement le Japon. Il ne semble pas évident pour les historiens que l'administration du président Roosevelt voulait à tout prix pousser le Japon à la guerre. Mais par contre, il voulait pousser le Japon à la guerre par des négociations qui auraient amené à des retraits japonais de zones conquises en pleine paix. Sauf que ces négociations n'aboutissent pas. Le 16 octobre, le prince Konoye, qui était partisan de maintenir un lien avec Washington, démissionne. Deux jours plus tard, le général Tojo, qui avait été ministre de la guerre, est nommé premier ministre par l'empereur Hirohito. On continue, certes, à négocier entre Japonais et Américains, mais en fait, on prépare déjà le plan sur Pearl Harbor. C'est le cas du plan Yamamoto, du nom de l'amiral qui l'a confectionné. Le 26 novembre 1941, la grande escadre qui donc prévoit d'attaquer Pearl Harbor va vers le nord du Pacifique pour essayer justement d'éviter toute rencontre avec des bâtiments américains et arriver très au nord, il redescendrait vers le sud et espère ainsi prendre par surprise la base américaine. Le 1er décembre, un conseil impérial se réunit et c'est au cours de ce conseil qu'il est décidé de concrétiser le projet Yamamoto et donc d'attaquer Pearl Harbor. Il est indéniable que l'attaque de Pearl Harbor a été un choc. D'abord, une surprise. Non pas tant qu'il y ait eu une attaque japonaise, mais une attaque à Pearl Harbor n'avait pas été véritablement envisagée. On percevait plutôt une attaque vers les Philippines, vers des possessions britanniques comme la Birmanie, Hong Kong. Mais attaquer en plein océan Pacifique la base de Pearl Harbor n'avait pas été véritablement envisagé. Du côté japonais, il y a un mythe militaire qui s'était constitué en 1904-1905, c'est-à-dire le mythe de l'opération décisive, comme lors de la guerre contre l'Empire russe, où en attaquant par surprise Pearl Harbor, puis ensuite avec une bataille décisive à Tsushima, on avait mis la Russie à genoux. C'était donc cet espoir qui avait guidé la construction du plan Pearl Harbor. Or, il faut bien avouer que le pire est évité pour les Américains. D'abord, le jour du bombardement, il n'y a aucun porte-avions dans la base. Ils sont allés en manœuvre. Puis, on maintient quand même 21 croiseurs qui sont peu touchés et 76 destroyers. D'autre part, les Japonais ont bombardé les aérodromes, mais ils ont complètement négligé les installations portuaires, les dépôts d'armes ou les dépôts de pétrole. D'autre part, les Japonais ont fait sans doute aussi une erreur, je dirais, psychologique. Ils espéraient que le choc de Pearl Harbor serait un tel affront, un tel choc psychologique, que finalement, l'opinion américaine aurait accepté de traiter avec un empire nippon qui venait de remporter un succès tactique important. C'est tout l'inverse. En effet, lorsque le président Roosevelt se présente devant le Congrès, il y a unanimité des sénateurs et des représentants, sauf un élu, ou plutôt une femme, qui refuse de voter la déclaration de guerre. D'autre part, l'opinion américaine, qui était très partagée sur l'idée de participer à la guerre, est cette fois-ci soudée par l'agression japonaise, qui apparaît totalement perfide, d'autant plus que la déclaration de guerre japonaise n'est arrivée qu'après le début du bombardement. L'amiral Yamamoto avait promis 6 mois de victoire, en espérant que ces 6 mois suffiraient peut-être à conduire les Américains à la négociation. Mais, disait-il, après 6 mois, cela deviendra extrêmement difficile. Il avait eu aussi cette phrase « Nous avons peut-être réveillé un tigre endormi ». C'est vrai qu'il y a eu sans doute sous-estimation du potentiel, de la puissance industrielle, militaire, économique des États-Unis. Le Japon a eu beau se battre courageusement, finalement, à Pearl Harbor, il scelle son destin qui se terminera à Nagasaki et à Hiroshima par les bombardements atomiques et par l'occupation du pays, une première dans l'histoire du Japon.